Sud. Grand Sud. Grand Sud FM.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, aujourd'hui, mercredi, nous sommes en direct de Perpignan, Méditerranée, Métropole. On poursuit en fait notre série d'émissions sur l'intercommunalité de notre zone d'écoute, Béziers, Narbonne, Perpignan, dans le but d'expliquer un petit peu aux auditeurs quelles sont les compétences des uns, des autres, qui gère quoi aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer en tout cas de faire à Perpignan, Méditerranée, Métropole, en compagnie de quelques élus qui vont nous expliquer leurs tâches, leurs délégations. Donc, on va remercier le président qui devrait pas tardé d'arriver tout à l'heure, Jean-Marc Pujol, ben voilà, qui vient d'arriver. On a aussi Daniel Mac qui est là pour nous accompagner, Marc Medina, Dominique Chemla et puis Jean Villa. On les remercie de participer à cette émission. Perpignan Méditerranée Métropole, une communauté urbaine qui a changé un peu de nature en début d'année 2016 et puis qui a eu donc ce statut de métropole dont on parlera tout à l'heure avec Monsieur Pujol. On va commencer avec Marc Medina. Marc Medina, maire de Toreil, une commune littorale qui est proche de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Bonjour Monsieur Medina.
Bonjour à vous.
Donc on va parler un petit peu de votre délégation qui s'intitule, là je cite, hein, « Trait de côte, gestion intégrée des zones côtières ». Vous allez nous expliquer ce que ça signifie, ce que veut dire « trait de côte ».
Donc en fait, une délégation a été spécifiquement créée dans Perpignan Méditerranée pour gérer le trait de côte parce que la frange littorale de la communauté urbaine qui s'étend sur 22 km est pour nous un élément extrêmement sensible puisque c'est là que se concentre la majorité du tourisme de la métropole.
Donc je sais qu'on a noté un petit peu une érosion, une modification de la côte actuellement, expliquez-nous ça.
Oui, effectivement, depuis une trentaine d'années, on constate une érosion du trait de côte. Donc le trait de côte, c'est la ligne qui sépare la mer des terres. Et cette frange littorale s'est vue amputée de 30 mètres, grosso modo, en une trentaine d'années, ce qui est non négligeable.
Alors comment est-ce qu'on l'explique ça aujourd'hui? C'est toute la frange littorale qui est concernée?
Alors c'est toute la frange littorale, c'est quelque chose qui est une problématique nationale et qui est parfois même plus prégnante sur d'autres terres atlantiques qu'en Méditerranée. Enfin nous c'est très impactant tout de même et ça s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord une remontée assez lente du niveau de la mer qui est en lien avec les modifications climatiques que nous connaissons. Et ensuite un certain nombre d'aménagements humains, notamment lors de la venue de la mission Racine et la création d'ouvrages portuaires qui ont généré des digues en mer qui ont modifié les courants marins et donc dépassement des bancs de sable. Et une troisième et dernière cause aussi, c'est la diminution du fait des barrages sur les différents fleuves côtiers, le Rhône notamment, mais aussi nos fleuves côtiers à nous. Des barrages qui ont été mis en place soit pour produire de l'électricité, pour gérer les centrales nucléaires sur le Rhône, ou pour nous, pour réguler les crues des fleuves côtiers, et qui diminuent de façon sensible l'arrivée d'alluvions et de sable en mer.
Est-ce que concrètement, Marc Medina, vous diriez que le littoral du Roussillon est un littoral menacé dans les années à venir? Enfin, ça va prendre encore pas mal de temps, j'imagine.
Menacé, non, je ne pense pas qu'il soit menacé. Disons qu'on travaille pour faire en sorte qu'il persiste, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une de nos richesses importantes à travers le tourisme balnéaire que la mission Racine a fait venir sur nos côtes.
Alors, vous avez trouvé des solutions à tout ça?
Alors oui, il y a des solutions et Perpignan Méditerranée a depuis plusieurs années mis en place un schéma de gestion de ce trait de côte et a créé il y a 3 ans, un observatoire spécifique qui s'appelle l'Observatoire de la côte catalane qui est en train de produire maintenant dans sa troisième année des chiffres, des résultats et des études très intéressantes qui vont nous permettre sûrement de modifier un petit peu le schéma tel qu'il avait été envisagé et de créer les éléments de la protection de ce littoral.
D'accord. Donc ça, en fait, ce que vous allez mettre en place, ça va prendre à peu près combien de temps?
Alors, combien de temps? Ce sont des travaux qui vont s'étaler sur de nombreuses années, bien évidemment, d'abord parce que c'est très coûteux. Le budget de ce schéma est estimé à 35 millions d'euros. Mais les ouvrages sont variables, ça part d'ouvrages très simples comme la mise en place d'un schéma de ganivelle qui fixent la dune et qui permettent de la recolonisation par la flore de la dune et donc sa stabilisation. On s'aperçoit que ce qui a été mis en place à Canet il y a déjà 4-5 ans a donné des résultats intéressants puisque la dune est remontée d'au moins 80 cm sur cet espace-là. Et ça va jusqu'à des enrochements en mer qui ont été installés pour 3,5 millions d'euros l'année dernière en face des plages les plus menacées du Barcarès, en passant par des rechargements en sable, en passant par des ouvrages immergés comme les boudins ensabés ou des systèmes de création d'îlots en mer, d'ouvrages qui permettent de recréer de la flore et de la faune immergée.
Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications, Marc Medina. Je rappelle que c'est votre délégation qui s'intitule Trait de côte, gestion intégrée des zones côtières. Et puis j'en profite pour rappeler quand même aux auditeurs que vous êtes maire de Toreil. Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Jean-Michel, on se retrouve dans quelques instants. On continue en direct de Perpignan Méditerranée Métropole avec Jean-Marc Pujol, président de cette métropole, dans quelques minutes.
Grand Sud. Grand Sud, Grand Sud FM.
Oui, Jean-Michel, Jean-Marc Pujol qui nous a rejoint, président de cette métropole, maire de Perpignan également, qui nous accueille dans ce bâtiment qui est situé quartier Saint-Assisque-la-Perpignan, derrière la gare. Un petit clin d'œil puisqu'on est tout près en fait du centre du monde. Jean-Marc Pujol, première question. Vous êtes efforcé depuis que vous avez pris la présidence de l'agglomération d'obtenir ce statut de métropole. Donc vous allez nous dire pourquoi et puis ce que vous pensez finalement que ça a apporté aux 36 communes. Bonjour.
Alors, parce que je suis persuadé qu'avec la nouvelle région, les enjeux à venir sont des enjeux de territoire. Or, nous avions la possibilité, nous étions les seuls à pouvoir dépasser 250 000 habitants et obtenir le statut de communauté urbaine, le nom de métropole n'étant pas réservé à personne. Et donc, il y a aujourd'hui, d'un point de vue juridique, Montpellier, il y a Toulouse, et j'ai voulu faire émerger le territoire de la communauté urbaine en regroupant le plus de maires possible. Et je pense que la communication va jouer sur l'émergence des territoires et la communauté urbaine métropole est le troisième territoire de la grande région.
Voilà, important pour vous. Par contre, on a remarqué que si presque toutes les communes quand même de la ceinture perpignanaise sont présentes, il en manque deux. Cléra, si je ne me trompe pas, et Pia, qui ont préféré en fait vivre leur vie intercommunale de façon différente et qui, a priori, sont en train de se rapprocher de petites communes du sud de l'Aude. Alors, ce qui donne un découpage, si on regarde une carte un petit peu bizarre, comment vous l'expliquez ça, vous, Jean-Marc Pujol ?
D'abord, les 36 communes qui existaient dans la communauté d'agglomération sont toutes restées. Et ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a eu des enjeux qui sont des enjeux qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, qui sont purement politiciens, puisque je ne vois pas l'intérêt d'ajouter entre Pia, Cléra et deux communes en difficulté de l'Aude l'intérêt d'un territoire. Je pense que ce sont des enjeux politiques. Moi, j'ai voulu les dépasser, donc j'aurais bien aimé d'ailleurs que tout le monde reviennent sur l'ensemble du territoire, parce que ne nous trompons pas, l'évolution est une évolution territoriale. Or aujourd'hui, Cléra, vous en parlez, vit grâce aux 120 000 habitants de Perpignan. Cléra seul ne pourrait même pas ouvrir un magasin. Donc ce sont des enjeux qui ont un caractère politique et qui sont loin de l'intérêt général.
Donc à votre avis, ils ne changeront pas d'avis en tout cas, le rapprochement est bien engagé?
Non, ils changeront pas d'avis, mais je vois pas la pertinence de ce territoire. La vraie solidarité, c'est ce que nous faisons dans la communauté urbaine, c'est-à-dire à partir d'un territoire de la commune perpignanaise et des communes avoisinantes avec un potentiel économique important, comment on fait de la solidarité avec les autres communes. Et je crois que c'est ça le vrai territoire, c'est pas le territoire des ambitions politiciennes de petit niveau.
Donc Jean-Marc Pujol, vous êtes aussi le maire de la ville de Perpignan, on l'a dit tout à l'heure. Vous aviez d'ailleurs fait campagne pour les municipales en laissant entendre que la présidence de l'agglo ne vous tentait pas plus que ça. Et puis finalement, une fois confronté aux réalités, aux réalités politiques, à la situation du moment. Vous êtes ravisé, puis vous êtes finalement devenu aussi président de Perpignan Méditerranée Métropole. Aujourd'hui, 2 ans sont passés, donc vous avez un petit peu de recul. Qu'est-ce que vous vous dites que vous avez bien fait, ou que finalement être président d'agglomération plus maire pour un seul homme, ça fait beaucoup?
Alors, je me suis ravisé et j'en suis très heureux, parce que j'observe que je n'avais pas de fonction de vice-présidence auparavant dans la communauté urbaine. Mais j'observe aujourd'hui que l'imbrication est telle que je ne vois pas comment on peut avoir un président de communauté urbaine différent du maire de la plus grande ville. C'est d'ailleurs le cas de quasiment tous les maires de France. Et on s'aperçoit malheureusement que dans ceux qui ont fait des choix différents, je pense par exemple à l'agglomération de Narbonne ou à l'agglomération de Béziers, que ça se passe très très mal. Il est impensable aujourd'hui que le maire de la plus grande ville ne soit pas le président de la communauté urbaine, et j'ai eu raison de revenir sur ce point. Ce que j'avais dit, c'est que j'étais contre le cumul des mandats, et je reste contre le cumul des mandats. Et je crois que le développement de la communauté urbaine, qui n'est pas un mandat, il faut le rappeler, est un élément très lié à la fonction du maire de la plus grande ville.
Donc en fait, il y a 2 solutions d'après ce que vous dites. Bon, c'est vrai qu'on peut donner l'exemple de Narbonne ou de Béziers. Finalement, c'est soit on a un président différent du maire, mais on s'entend très très bien pour avoir une finalité correcte sur les projets.
Dans les 2 exemples, c'est compliqué. Je prends l'exemple du maire de Narbonne, qui n'est même pas vice-président de la communauté d'agglomération du Narbonnais. C'est impensable. Et je prends l'exemple de Béziers, où le maire de Béziers n'est pas concerné par la majorité de la communauté d'agglomération de Béziers. Je pense que cela dessert les territoires, les engagements, parce que vous savez, les engagements sont des engagements territoriaux aujourd'hui. Et je pense que la communauté urbaine ou la métropole doit avoir le même maire ou le même président que la communauté, que la mairie la plus importante.
Alors, Jean-Marc Pujol, aujourd'hui, donc cette métropole est en place. Vous allez nous la présenter en quelques chiffres. Vous nous avez dit 36 communes. On va parler du nombre d'habitants aussi, parce que c'est vrai que pour les citoyens, pour les auditeurs qui ont souvent du mal à s'y retrouver, on se pose la question, quelles sont les compétences d'une agglomération? Qu'est-ce que vous gérez exactement? Donc, c'est ce qu'on va vous demander de nous expliquer ce matin.
Alors, les citoyens voient tous les jours les compétences de la métropole, mais ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire un gros écart. Par exemple, la collecte des déchets, c'est la métropole. Ça n'est plus. Et tous les jours, les citoyens voient des poubelles qui sont enlevées, et puis ils n'ont pas l'impression que c'est la métropole. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, le transport en commun. Tous les bus que les citoyens voient circuler, c'est une compétence de la métropole, notamment le transport scolaire. Donc ça, ils ne le voient pas non plus. Le troisième élément, c'est les voiries, c'est-à-dire où ils circulent tous les jours. Eh bien, c'est aussi la métropole, mais ils ne le savent pas toujours. Et enfin, l'économie, même s'ils la voient moins, ce sont les zones économiques dans lesquelles ils se déplacent et où ils vont, c'est aussi la métropole. On voit bien que les enjeux de la métropole aujourd'hui dépassent les enjeux communaux, puisque les 4 secteurs que je viens de citer sont fondamentaux pour nos citoyens.
Et vous avez des gros projets sur ce mandat ?
Oui, j'ai d'abord le projet politique de faire émerger un territoire et donc de trouver un consensus parmi l'ensemble des maires de la métropole. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que l'unité municipale et la légitimité municipale restera toujours l'élément de proximité nécessaire à notre pays. Donc je suis engagé et je vis la métropole comme un engagement à la disposition des maires des territoires, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont la légitimité. Et donc je vis la métropole comme un prestataire de services à disposition des maires, qui leur permettra d'améliorer la vie de leurs citoyens dans leur commune. Voilà pourquoi ma vision de la métropole est une vision d'une prestation de services à disposition des maires. C'est une particularité, c'est ma conviction que la proximité doit être celle des maires, et c'est ma conviction aussi qu'il ne faut pas traiter la métropole sur des enjeux politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable établissement public de coopération intercommunale. Il faut revenir sur ce point-là. Qui dit coopération, dit un peu sortir du débat clivant politique qui nous amène à rien dans ce pays.
Voilà, donc on oublie la politique et on est sur l'échange et les idées concrètes.
Oui, sur le concret, sur la cohérence, sur des projets, sur l'envie de faire des choses ensemble, sur des échanges d'intérêt général. On parle surtout de l'intérêt général.
Alors, Jean-Marc Pujol, jusqu'ici, vous aviez une quinzaine de vice-présidents délégués, ce qui est classique pour ce genre de fonctionnement. Habituellement, lors du dernier conseil, vous avez annoncé que vous alliez ajouter des délégations nouvelles à 19 conseillers communautaires. Alors, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision, finalement, au bout de 2 ans ?
Alors, d'abord parce que nous négocions depuis plus d'un an, il y avait des avis divergents sur ce sujet. Certains disant il faut regrouper la gouvernance autour de quelques maires. À l'intérieur de mon conseil municipal, d'ailleurs, j'ai dû beaucoup convaincre, puisque nous sommes la seule métropole qui a si peu de conseillers municipaux de la ville de Perpignan présents. Il n'y a que 3 membres de la ville de Perpignan qui sont vice-présidents de la métropole. À Montpellier, il y en a 10. Bon. Donc, il a fallu que j'arrive à convaincre d'abord les élus perpignanais. Ensuite, il a fallu que j'arrive à convaincre ceux qui étaient opposés à cette intégration. Et donc, en discutant, nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire une charte de fonctionnement parce que certains élus, à juste titre, avaient peur que des compétences soient rajoutées sans qu'ils aient leur mot à dire. Et donc, on a mis presque un an pour discuter d'une charte et enfin, on est arrivé à discuter et à signer une charte que tout le monde a signée. Et j'ai pris l'engagement dans cette charte que la gouvernance serait exercée par le bureau. Et donc la décision qui a été prise au dernier conseil communautaire a été d'intégrer les maires qui n'étaient pas au bureau dans le bureau communautaire qui est l'instance de décision avec bien sûr l'Assemblée. Les délégations c'est encore autre chose puisque les délégations c'est uniquement le président qui les donne et donc je vais en discuter avec les élus concernés pour savoir qui veut des délégations ou pas.
Voilà. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous nous disiez juste avant, ce côté où vous voulez faire un maximum pour les maires et leur donner des possibilités, quoi, avec l'aglo.
Ben, je crois que le terme coopération, c'est ça. Si on coopère, c'est qu'on travaille ensemble, voilà. Et mon approche est celle-ci.
Merci beaucoup Jean-Marc Pujol. Je vais rappeler aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur Grand Sud FM que vous êtes le président de Perpignan Méditerranée Métropole, mais aussi le maire de Perpignan.
Oui, exactement, et merci à vous.
Dans quelques instants, Jean-Michel, on continue notre petit tour. On va voir qui est-ce qu'on retrouve, si on retrouve Jean Villa, Monsieur Mac. On le voit dans quelques minutes. À tout à l'heure.
Grand Sud. Grand Sud.
Tout à fait, Jean-Michel. Daniel Mac, maire de Poyestre, commune aux alentours de Perpignan, et vice-président chargé des mobilités et des transports. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Daniel Mac, une partie essentielle de cette délégation, c'est évidemment la CTPM, la compagnie des bus avec plus de 200 agents, si je ne me trompe pas, et plus de 200 véhicules. Vous avez quelques chiffres à nous donner, nous parler un petit peu de ces transports urbains?
Quelques chiffres, oui. En termes de budget, le budget des transports, c'est 30 millions d'euros par an. C'est alimenté par le VT, le versement de transport, qui nous amène, payé par les entreprises, il faut le rappeler, de plus de 11 salariés, qui nous ramène 25 millions et 25 millions d'euros par an, et 5 millions qui sont le résultat de la billetterie. Voilà. Voilà les quelques chiffres que je peux vous donner. C'est effectivement, vous avez raison de le dire, c'est 240 bus en tout, et à peu près 280 agents qui travaillent. C'est un petit peu plus que ce que vous disiez. Voilà.
Voilà, et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on entend parler de caillassage, mais vous me disiez, vous, que Perpignan est l'endroit où il y a le moins de caillassage en France. Après, quand il y en a, bien évidemment, on en parle, c'est dans certains quartiers. Et lors du dernier conseil communautaire, vous avez donc décidé déjà de prolonger la délégation de services publics à la société qui assure ce transport, et en même temps, vous avez annoncé des modifications. Alors, des modifications aussi bien par rapport au bus, hein, c'est-à-dire par rapport à l'économie, et puis par rapport au côté hybride et électrique, le côté écologique, mais aussi des solutions par rapport à ces caillassages. Donc, on va voir un petit peu tout ça en détail.
Oui, je vois que la question est très large quand même. On commence par les caillassages. Bon, d'abord, vous dire que le transport dans la communauté urbaine, ce n'est pas les caillassages. Le transport, c'est 36 communes. On va de Cals jusqu'à, comment vous dire, jusqu'à Poyestre, et de Poyestre jusqu'à au Barcarès, et avec le même tarif pour tous les usagers. Voilà, ça, c'est la communauté urbaine. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous prenez le bus, vous allez dans la même destination en payant le même tarif. Ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, de temps en temps, nous avons des caillassages, et même si nous faisons partie des communautés urbaines ou des départements où il y en a le moins, je ne laisserai pas passer ce genre d'agissement. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut, comment dire, mettre en sécurité nos chauffeurs et les usagers, bien entendu. Donc, nous avons décidé de demander aux délégataires. C'est pour ça que nous avons aussi révisé un petit peu la délégation, ce qui nous a fait économiser 25 millions d'euros, je le rappelle, en rallongeant de 2 ans. Nous avons économisé 24,8 millions d'euros. Mais la contrepartie, c'est que nous avons, comment dire, dirigé les investissements vers le délégataire. Nos investissements, ceux qui le faisons. Et nous avons imposé aux délégataires d'entamer la transition énergétique, c'est-à-dire de passer au diesel. Maintenant, nous allons passer à des bus hybrides, à des bus électriques, à des bus à gaz, essayer d'avoir un panel qui avait des bus un petit peu plus écolo, plus moderne. Parce que le bus, il faut quand même le dire, le transport dans la communauté urbaine, c'est l'attractivité du territoire. C'est le développement du territoire. On ne peut pas vouloir développer Cals, Poyestre, Perpignan, Barcarès, avec le tourisme, tout ce que ça implique, si on n'a pas de réseau de transport. Parce qu'on a un département où tout est près, mais en même temps, tout est loin. C'est-à-dire, quand on habite au Poyestre, on n'est qu'à 4 km de Perpignan. Mais en même temps, on ne peut pas les faire à pied parce que c'est très loin. Le bus, ce qui est ce que nos administrés ont de plus lisible pour la communauté urbaine, c'est le transport. C'est-à-dire que chaque fois qu'une commune a adhéré à la communauté urbaine, communauté d'agglomération avant, les bus sont arrivés, donc ils ont vite cette lisibilité, ils l'ont eu à travers les bus. Ça a mené quoi? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'amènent les bus dans nos communes. Le bus dans une commune, c'est nos personnes âgées qui attendaient le week-end la visite des enfants et des petits-enfants, qui ne se déplacent plus pour aller voir les personnes âgées. Et bien maintenant, ils prennent le bus, ils vont à Perpignan voir leurs petits-enfants. C'est nos enfants qui avaient 2 mois et demi de vacances l'été et qui erraient dans nos communes parce que les parents n'ont que 15 jours ou 3 semaines l'été et qu'on avait donc, nous, élus, la responsabilité pendant 2 mois, 2 mois et demi à gérer les enfants des autres. Et bien aujourd'hui, ces enfants prennent le bus et vont passer la journée à la plage. Ils peuvent aller au Barcarès, ils peuvent aller à Torrey, ils peuvent aller à Canet, ils vont où ils veulent. C'est ça le réseau de transport dans la communauté urbaine. Donc l'ambition aujourd'hui, c'est de le développement du territoire, c'est d'amener une attractivité, c'est d'amener les gens de plus en plus vers le transport, à moderniser le transport. C'est des bus qui parlent, c'est des bus beaucoup plus lumineux, on va relooker un petit peu tous les bus, faire ce qui se fait par ailleurs. On voit quand vous allez dans la communauté urbaine de Montpellier, on voit des bus avec des fleurs, des tramways avec des fleurs. Ça passe dans des vieux quartiers, ça modernise le quartier, le passage d'un bus. Donc, je suis en train de m'inspirer de tout ce qui se fait ailleurs pour moderniser le transport et rendre notre territoire beaucoup plus attractif. Quand je vous dis qu'on va à Cals en bus, ça paraît illogique, mais c'est ça la communauté urbaine. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend le bus au Castillet et on vous amène à Cals. Et c'est bien pour toutes les communes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens peuvent aller habiter dans tout le territoire de la communauté urbaine en se disant que demain, eh bien, ils peuvent prendre le bus s'ils n'ont pas de véhicule. Voilà.
Voilà, et vous me disiez tout à l'heure, 44 bus, on va investir dans 44 bus hybrides ou électriques.
Alors, ce n'est pas nous qui allons investir. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, la CTPM, qui est le délégataire, hein, qui a à charge donc le fonctionnement, mais aussi l'investissement, a à charge de changer 44 bus pendant cette durée. C'est-à-dire que dans le cadre de la transformation de notre DSP, nous avons négocié ça avec eux. Donc, ça va aller dans les bus hybrides, dans les bus à gaz, dans les bus électriques. On essaie de voir quel est l'énergie vers laquelle nous devons nous diriger demain, puisque rien n'est encore arrêté, il n'y a pas de directive nationale, et on attend ça pour que tout le monde se mette en ligne. Alors en attendant, on essaie d'élargir un petit peu le panel et faire en sorte que nos bus soient beaucoup plus modernes, beaucoup plus écologiques, fassent moins de bruit et où les gens se sentent de plus en plus en sécurité. On a imposé, pour les caillassages aussi, à ce que 2 caméras soient mises par bus, qu'il y ait des caméras qui soient mises à l'extérieur. Et nous avons eu l'opportunité de saisir une aide de l'État pour avoir 8 accompagnants dans les quartiers les plus difficiles, ce qui va rassurer bien sûr le chauffeur, mais aussi les usagers, puisque ces 8 accompagnants seront là en cas de problème pour essayer d'apaiser, d'atténuer un petit peu les problèmes qu'on peut rencontrer dans les bus.
Là, vous parlez de caméras dans les bus et à l'extérieur des bus, mais sur tous les arrêts, c'est prévu, Daniel Mac ?
Dans les endroits les plus sensibles, dans un premier temps, en essayant petit à petit d'élargir un petit peu tout ça. Mais les endroits les plus sensibles, c'est 2-3 quartiers dans Perpignan que nous sommes obligés aujourd'hui d'investir un petit peu plus en matière d'éducateurs, en matière de prévention, mais aussi en matière de sanctions, puisque nous ne voulons pas quand même laisser faire ça. Il y va quand même de la pérennité de nos transports. Si on veut pérenniser nos transports, si on veut le développer, un autre chiffre que je ne vous ai pas donné, c'est 10 53 000 passagers par an dans la communauté urbaine, les bus de la CTPM. 10 53 000, c'est le résultat de 2015. Donc on voit bien que les gens prennent le bus. Mais pour ça, il faut les sécuriser, il faut mettre les gens en confiance et leur montrer qu'on s'occupe d'eux. Donc, les bus à l'extérieur, les bus à l'intérieur, des adultes accompagnants dans les quartiers les plus sensibles et faire en sorte que ces jeunes les sensibilisent aussi un petit peu au bus. On a fait une promotion l'année dernière à la faculté, parce que c'est le réseau cible, c'est nos jeunes. Alors je sais que certains disent ils ont augmenté les tarifs il y a 10 ans qui n'étaient pas augmentés et 3 ans pour d'autres. Bon, donc il a bien fallu quand même rétablir un petit peu une certaine normalité. Et on a mis 5000 tickets gratuits de bus à la faculté de Perpignan pour imposer un petit peu à nos jeunes, de laisser la voiture dans leur parking, à la faculté, et de les initier un petit peu au bus. Voilà, ça a bien marché. Et cette année, on va mettre une distribution de billets au sein même de la faculté. Voilà. Donc, on est en plein dans les promotions, on a des parkings relais qui fonctionnent bien, c'est-à-dire tous les gens de l'Agli posent leur voiture à Saint-Estève, et à raison de 2,20 € peuvent à 1 ou à 4 passagers prendre le bus du parking relais, aller dans Perpignan, faire des allers-retours. Voilà ce qu'on essaie d'initier pour familiariser nos concitoyens avec le transport.
En fait, vous êtes en train de mettre en place la culture du bus sur l'agglomération de Perpignan.
Absolument. Juste vous dire quand même que vous savez, nos jeunes aujourd'hui, un jeune de Poyestre, par exemple, naissait à Poyestre et mourait à Poyestre en allant 10, 15, 20, 30 fois dans sa vie à Perpignan. Bon, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les jeunes prennent l'avion, circulent en Europe, en France, en Europe, dans le monde. Donc, et chaque fois qu'ils vont dans les grandes villes, ils ont un petit carnet et ils savent se servir des transports. Nous n'avons pas, nous, cette culture. Eux l'auront demain. Donc, il faut moderniser les bus, leur montrer qu'on peut faire aussi mieux ici qu'ailleurs. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'inspire de ce qui se fait ailleurs pour essayer d'avoir un réseau de transport moderne et efficace et sécurisant.
Merci beaucoup Daniel Mac. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Poyestre et donc vice-président, vous l'avez dit, chargé des mobilités et des transports.
Tout à fait madame, merci à vous.
Dans quelques instants, on continue cette émission. On va retrouver Jean Villa ou Dominique Chemla. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.
Grand Sud, Grand Sud, Grand Sud FM.
Oui, on va retrouver Jean Villa, qui est aussi venu participer à cette émission en direct de Perpignan Méditerranée Métropole. Jean Villa, qui est maire de Cabestany depuis plusieurs décennies, il me disait tout à l'heure depuis 77. Et sa commune n'a intégré l'agglo que récemment, mais ça, il va nous l'expliquer. Bonjour Jean Villa.
Bonjour.
Donc, votre commune a intégré l'agglo que récemment, vous y étiez opposé, c'est finalement l'application de la loi qui vous y a contraint. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez résisté durant toutes ces années.
Tout d'abord, je n'ai pas intégré l'agglo, j'y étais admis d'office, par force, hein, et pas d'après la loi, d'après une magouille politicienne menée par l'ancien président qui s'appelait Jean-Paul Alduy, qui tout simplement, vous savez qu'il est interdit, il faut qu'il y ait continuité entre les communes. Cabestany était en dehors de la continuité, donc on pouvait y rester jusqu'à la loi de 2014. mais par un cavalier, ça s'appelle comme ça à l'Assemblée, le sénateur ancien président a fait en sorte que Saleil rentre dedans, cavalier qui n'est plus d'actualité, c'est illégal. Et j'ai été une commune encerclée. Et lorsqu'il y a eu une fusion avec Rivesaltes, c'est-à-dire c'était en 2011, j'ai été là, de par la loi, obligé d'être dans l'agglo. Mais je ne voulais pas être dans l'agglo, tout simplement parce que c'était une perte de revenus pour la commune importante. D'ailleurs, depuis, on s'en est rendu compte, sachant que Cabestany est le deuxième contributeur après Perpignan aux finances de l'agglo.
Ok, donc Jean-Villa, aujourd'hui, vous y êtes, hein, dans cette métropole, mais vous, on pourrait dire quand même que vous n'êtes plus tellement opposant, puisque vous avez voté le budget, si je me trompe, et vous êtes maintenant conseiller communautaire délégué depuis quelques semaines.
Tout à fait. Mais ce qu'a oublié de dire tout à l'heure le président Jean-Marc Pujol, qui était à côté, c'est qu'effectivement, j'étais opposant sous le règne de Jean-Paul Alduy, les premières années de Jean-Marc Pujol, parce qu'on était considérés comme des opposants, parce que les responsabilités étaient réparties au sein de l'UMP, tout simplement. D'ailleurs, dans la presse, c'était marqué. Depuis 2 ans, on se bat avec un groupe, dit le groupe des progressistes. D'une part, on est à l'initiative de la charte que disait tout à l'heure Jean-Marc Pujol, charte qu'on a fait modifier, puisque le début de la charte, il était tout simplement écrit... Je l'ai sous les yeux, je vais me faire un plaisir de vous la lire.
Bah, on vous écoute.
Là où il est écrit, les maires ayant signé un accord de gestion dans le cadre de cette charte, comprenant le vote du budget, seront associés à l'exécutif. Ça voulait dire que pour être dans l'exécutif, il fallait voter le budget. Cette charte, on l'a fait modifier et aujourd'hui, ça n'existe plus. Tous les maires, quel que soit leur positionnement au moins du budget, sont dans la gouvernance. On s'est battu pour ça. Et aujourd'hui... Comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Jean-Marc Pujol, on n'est pas une collectivité, on est un établissement public de coopération intercommunale. C'est-à-dire que l'ensemble des maires doivent gérer aujourd'hui Perpignan, Méditerranée, communauté urbaine. Parce que c'est un statut de communauté urbaine qu'on a et pas de métropole. C'est encore un autre statut, la métropole. Là, c'est métropole, c'est je sais pas, c'est pour la com' qu'on a dit ça. Mais c'est, le statut, c'est communauté urbaine. Donc aujourd'hui, nous attendons la fin du résultat, parce qu'on ne connaît pas tout le monde à délégation, vous avez entendu, sauf moi. J'ai aucune délégation. Mais non, mais c'est ce que je dis, ça va venir, puisque c'est le pouvoir du président de les donner. Mais aujourd'hui, on s'est battu. Et aujourd'hui, on a voté le budget tout simplement parce qu'on participe à la commission des finances, on a été exclu, on participe à tous les groupes. La voix des maires est entendue, celle de Cabestany comme d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on gère vraiment la communauté urbaine en établissement public de coopération intercommunale et non plus comme une collectivité. Il faut savoir qu'au départ, l'agglo, c'était une machine de guerre contre le conseil général. Aujourd'hui, voilà, c'était les rivalités Bourquin-Alduy, cela a disparu et je m'en félicite. Et aujourd'hui, on doit gérer ça collectivement. C'est pour ça qu'on s'est battu pour ces textes qui sont aujourd'hui la loi.
Alors, vous, aujourd'hui, Jean Villa, après toutes ces explications, quel rôle est-ce que vous souhaitez jouer dans cette communauté urbaine ?
Mais tout simplement, c'est participer à la gestion et prendre en compte les propositions que nous pouvons faire. Voilà. C'est un établissement public. Je crois que toutes les idées viennent de tous les maires. Aujourd'hui, Cabestany fait partie des communes qui ne sont pas en retard, ni sur la gestion, ni sur la culture, ni sur l'économie, ni sur rien du tout. Et on peut avoir des idées qu'on doit faire partager à l'ensemble des maires de la communauté urbaine, ce qui est le cas d'ailleurs depuis quelques temps. Voilà, c'est l'intérêt d'abord celui des citoyens. On est là pour gérer l'affaire des 250 ou 260 000 habitants de là. C'est ça qui est notre responsabilité. Et qu'on sente, que les gens sentent qu'il y ait égalité de traitement pour l'ensemble du territoire. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, les premières années où j'ai été dans l'agglo, on est le premier contributeur après Perpignan et on recevait en retour rien du tout. Aujourd'hui, les choses se sont dégelées, on est traité normalement, et ça, je m'en félicite.
Voilà, donc aujourd'hui, tout va bien, finalement.
Mais tout va bien dans le cadre de la gestion. Après, il y a les débats, ils sont passionnés ici. Quand on intervient, ils sont passionnés, surtout qu'on a un groupe à côté, là, qui est le Front National, qui est là pour apprendre, mais pas pour gérer. Donc, je veux dire, il y a des débats passionnés, donc c'est intéressant. Mais je crois que c'est l'intérêt des populations qui doit nous guider, avant tout. et faire partager aujourd'hui la gestion à l'ensemble de la population. Et je crois que ça, on y arrive de doucement. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place sans consulter les gens. Et je crois que ce devoir de démocratie, nous, on y apportera toute notre contribution, parce que c'est l'intérêt des gens d'abord.
Voilà, c'est la bataille que vous menez aujourd'hui au sein de cette communauté urbaine.
Et qui est de plus en plus partagée. Moi, j'étais ravi d'entendre tout à l'heure le président qui se félicitait de ses avancées. Et ces avancées, c'est le groupe progressiste qui les a proposées et avancées. Vous savez, le jour de l'installation du conseil communautaire, le premier, nous, on se demandait même si on y allait y participer. La presse quotidienne nous avait informé que le bureau départemental du MP avait désigné le président, les vice-présidents et tous les restes. Et j'avais demandé tout simplement au président, je lui ai dit, mais quelle place pour nous? Il m'a dit, aucune. Aucune, d'ailleurs je l'ai dit en séance publique, mais c'est pour mesurer les avancées. Voilà la position du départ. Aujourd'hui, on a travaillé, ça n'a pas été sans balles. Il a eu sans doute des difficultés à faire avaler à certains ces propositions d'une gestion commune. Aujourd'hui, c'est arrivé. On a voté le budget parce qu'on y a participé à ce budget. On nous a demandé notre avis, les comptes sont clairs. Il a eu quand même le courage de dire il y a 2 ans, aujourd'hui, on est pratiquement en faillite, avec une cessation de paiement dans quelques mois, avec une dette de 500 millions. Je veux dire, moi, je lui reconnais ce courage politique, alors que certains le cachaient. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut redresser une gestion qui n'a pas été des meilleures pendant un certain nombre d'années. Donc, quand les choses vont dans le bon sens, je vous dis ici, moi j'en suis ravi, il faut oublier les étiquettes politiques. Je veux dire, ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt de la population et comment on peut faire pour les satisfaire.
Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde que Jean-Marc Pujol qui disait à peu près la même chose que vous tout à l'heure.
Oui, qui a beaucoup évolué sur ce problème. Je crois qu'il faut quand même le faire remarquer. Quand je dis participer les gens, il le dit, mais dans la réalité, même les élus de la communauté urbaine ne participaient pas à la gestion, puisque tous les maires qui étaient opposants politiques n'y participaient pas. Donc je veux dire, c'est pas la démocratie. Aujourd'hui, on a avancé un pas, je le redis et je m'en félicite. On est dans tous les groupes de travail où on peut donner notre avis. Et je veux dire, on a la clarté qu'on n'avait jamais eue dans ça. Alors, il ne va pas me convaincre politiquement, Jean-Marc Pujol, ni Daniel Mac qui est à côté, mais je crois que c'est aussi l'intelligence des hommes d'y arriver. Tout à l'heure, Daniel Mac parlait des transports. C'est quand même une incohérence départementale. Moi, ça fait 15 ans que je me bats pour qu'on ait un syndicat mixte des transports à l'échelle du département. Dans ma commune, il passe 16 bus du conseil général qui n'ont pas le droit de s'arrêter et qui n'ont pas le droit de prendre des gens puisque c'est la communauté urbaine. Aujourd'hui, enfin, on est en train de passer des conventions avec le département. Le département n'est plus un ennemi comme ça a été. Aujourd'hui, c'est un partenaire incontournable avec lequel il faut travailler. Et aujourd'hui, là, il y a des avancées importantes. Et moi, je m'en félicite. Je crois que c'est un travail que j'ai mené ici, que j'ai fait partager, mais que j'ai mené aussi, puisque j'étais vice-président jusqu'au mois de février au conseil départemental. Voilà, il y a des avancées concrètes, surtout quand les financements deviennent de plus en plus réduits avec tout ce que l'État nous fait comme misère.
Donc on va terminer comme ça sur cette note positive. Jean Villa, je vais rappeler aux auditeurs de Grand Sud FM que vous êtes le maire de Cabestany. Et puis, on vous remercie d'avoir intervenu dans cette émission. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, puisque c'était un débat pratiquement qu'avec des gens de l'ex-majorité. On m'a invité en tant qu'opposant. Je ne suis pas un opposant, vous l'avez compris, je l'ai été. Et aujourd'hui, je souhaite le développement de la communauté urbaine de Perpignan-Méditerranée.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas Jean Villa. Dans quelques instants, on va clôturer avec Dominique Chemla. Donc on se retrouve dans quelques minutes, Jean-Michel.
Grand Sud. Grand Sud. Grand Sud FM.
Tout à fait, Jean-Michel. On va terminer cette émission en direct de Perpignan Méditerranée Métropole avec Dominique Chemla, vice-président en charge du développement durable et de l'énergie et de la gestion et valorisation des déchets sur ce grand territoire de 36 communes. Bonjour Dominique Chemla.
Oui, bonjour.
Donc déjà un bref recensement des dossiers en cours peut-être.
Écoutez, d'abord il faut faire un petit peu l'historique de notre communauté urbaine en termes de développement durable. Nous avons démarré en 2008. En 2008, on a signé avec Jean-Louis Borloo un Grenelle 2015 qui prévoyait qu'à l'horizon 2015, notre communauté urbaine serait énergie positive. Puis ensuite, nous avons obtenu un plan climat-énergie territorial en 2010 et enfin un agenda 21 en 2013 pour cette communauté urbaine. Pourquoi nous sommes cette vitrine, nous considérons être une vitrine et un territoire d'excellence des énergies renouvelables et du développement durable? Parce que d'abord, on est béni par les dieux. Nous avons 330 jours de soleil par an et 220 jours de vent. Et nous avions la volonté, effectivement, au-delà des deux piliers de notre département qui sont le tourisme et l'agriculture, de développer à travers les énergies renouvelables et à travers l'économie circulaire toute une branche qui est une branche de croissance verte qui crée à la fois de la croissance et de l'emploi.
Donc en fait aujourd'hui vous êtes le département pilote en matière d'énergie renouvelable, Dominique Chemelin.
Oui, c'est vrai, nous sommes considérés à la fois par le ministère, par l'ADEME et par la région, la grande région, comme un département pilote, parce que nous avons beaucoup de projets. Beaucoup de réalisations aussi, que ce soit en matière d'éolien terrestre, des projets en matière d'éolien offshore, mais aussi beaucoup de réalisations en matière de photovoltaïque et de solaire.
Voilà, bon, vous le disiez tout à l'heure, le soleil, le vent, on va donc parler des éoliennes, les éoliennes terrestres, on va commencer par ça, des ambitions fortes pour renforcer en fait l'indépendance en énergie de ce territoire ?
Oui, absolument. Nous avons sur 4 territoires de notre communauté urbaine, nous avons 35 éoliennes qui sont en ordre de marche aujourd'hui, qui seront d'ailleurs inaugurées le 24 juin prochain par Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie et de l'environnement, et par Monsieur Lévy, qui est le président d'EDF, et qui vont nous amener à 96 mégawatts développés, c'est-à-dire un tiers de la production d'énergie sur ce territoire.
Et ça va continuer de se développer côté éolienne dans les années à venir. Vous avez déjà quelques projets ?
Absolument, nous avons encore 3 autres projets d'éoliennes sur 3 communes du territoire. Et puis bien sûr, toujours travailler aussi sur la filière de l'économie circulaire à travers la méthanisation, travailler aussi à travers les réseaux de chaleur, travailler sur le bois, travailler sur le bois énergie, travailler aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'éolien offshore. Toutes ces matières-là sont des matières de développement pour nous, de développement à la fois de transition énergétique, mais aussi et surtout de développement économique.
Alors l'éolien offshore, on va en parler. C'est vrai que j'en ai déjà parlé avec le maire de Port-la-Nouvelle, par exemple, avec le maire de Grussin également, Didier Codorniou. Donc vous, quel est ce projet de ferme éolienne offshore ?
Alors ce sont 2 fermes pilotes qui devraient s'installer au large de Port-Barcarès et de Port-le-Cat. C'est un projet qui va être un projet expérimental, où je crois l'appel d'offres est en cours de lancement, et qui permettra effectivement à terme d'alimenter pratiquement 300 000 habitants avec les énergies complémentaires renouvelables que nous avons sur le territoire, d'alimenter la consommation énergétique de pratiquement 300 000 habitants.
Est-ce que vous avez été toujours, vous, pour ce projet de l'éolien offshore, parce que bon, certains maires, comme par exemple Didier Codorniou, au départ, il y avait un petit peu des réticences par rapport, on va dire, au visuel. Et puis finalement, comme ces éoliennes seront installées assez loin des côtes, ça pose plus de problèmes. Est-ce que vous avez douté de tout ça au départ ?
J'ai été effectivement très attentif à la distance d'implantation des éoliennes parce que nous sommes bien entendu un territoire aussi touristique. Hein. Nous avons une zone littorale très importante avec plusieurs communes. Et effectivement, l'éloignement assez sensible des éoliennes et puis l'accord aussi des pêcheurs, l'accord des gens du parc naturel marin ont fait que par définition, on s'est dit, c'est une opportunité auprès de laquelle on ne doit pas passer.
Et au niveau économique, ça va créer aussi des emplois, générer quelques emplois ?
Ça va générer des emplois liés à la maintenance, à l'entretien, plus bien sûr que la fabrication, puisque ces éoliennes sont en général fabriquées au nord de l'Europe, mais en termes de maintenance, de montage et d'entretien, nous aurons effectivement des emplois à la clé.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec des maires comme M. Martin, M. Codorniou sur cet éolien offshore ? Vous avez eu l'occasion d'en discuter ensemble, de vous rencontrer ?
On a discuté avec les maires, surtout de la communauté urbaine, les maires littoraux de la communauté urbaine. Je dois rencontrer M. Codorniou prochainement. Et j'ai déjà rencontré, bien sûr, Mme Langevine, qui est la vice-présidente de la région, qui est en charge aussi de pratiquement les mêmes délégations que j'ai moi aussi sur cette communauté urbaine. Et nous avons une volonté de travailler ensemble, à la fois sur les déchets, parce que l'économie circulaire aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, mais aussi sur l'énergie, sachant que l'énergie renouvelable est une énergie propre, qui n'émet pas d'émissions de gaz à effet de serre, et qui est bien entendu quelque chose de vertueux.
Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Hein, Dominique Chemelin, je rappelle que vous êtes vice-président en charge du développement durable et de l'énergie et de la gestion et valorisation des déchets dans ce grand territoire de 36 communes. Merci.
Merci à vous.
Voilà, on va clôturer cette émission. Je vous rappelle qu'on était ce matin en direct de Perpignan, Méditerranée, Métropole. On va remercier tous nos intervenants, Jean-Marc Pujol, le président, Daniel Mac, Marc Medina, Dominique Chemla et puis Jean Villa, d'avoir accepté de participer à cette émission. J'espère qu'on vous a un petit peu ouvert les yeux sur ce que peut vous apporter une agglomération, en tout cas, ce que peut vous apporter Perpignan, Méditerranée, Métropole. Et puis, on va se quitter, on va vous laisser continuer en musique, normalement, Jean-Michel va nous dire tout ça.
Tout à fait.
On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on va changer de décor, on sera dans l'Aude et on sera à Loulibo. Grand Sud.